Ils n'ont pas de vêtements fluorescents sur le dos. Pourtant, ils auraient bien besoin d'être vus des autorités. Non parce qu'ils constituent une menace quelconque pour l'ordre public, non parce qu'ils représentent un risque pour le pouvoir en place à quelques semaines d'un scrutin majeur pour notre pays, mais parce qu'ils sont en danger. Les voilà, au pied de la montagne où Jésus a passé la nuit à prier, où il a choisi les 12 pour être ses apôtres. Jésus semble s'être préparé sur la montagne, à proximité du ciel, donc à proximité de son Père, pour une mission essentielle. Il redescend avec ses disciples les plus proches pour venir à la rencontre de ceux qui le cherchent, qui ont déjà été subjugués par son autorité d'un genre nouveau. Qui sont-ils, ceux-ci? Un grand nombre de ses disciples. Une grande multitude de gens. Originaire des hauteurs du sud, Judée et Jérusalem, comme du littoral nordique, Tyr et Sidon, c'est-à-dire symboliquement de tout le pays d'Israël et d'au-delà. La portée du message de Jésus est donc comme universelle. Et que veulent-ils? Un verset omis dans le passage d'évangile de ce matin nous renseigne. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ces hommes et ces femmes qui attendent Jésus dans la plaine n'arborent pas de gilets jaunes. Ils ne sont pas venus en convoi pour faire valoir leur liberté. Mais ils ont besoin que Jésus pose son regard sur eux, qu'il les voit, parce qu'ils se savent en danger et parce qu'ils ont besoin d'être sauvés. Or, non seulement Jésus lève les yeux sur eux, mais il prononce son premier discours à leur intention, plus particulièrement pour ceux qui ne se reconnaissent comme ses disciples et ont déjà fait le premier pas de la confiance. Les paroles qu'il leur adresse constituent un enseignement salutaire qui vient les toucher au plus profond d'eux-mêmes pour les réconforter ou bien pour les appeler à ne pas se fourvoyer. Tous, oui, sont en danger. Tous ont besoin d'être sauvés. Mais tous ne courent pas le même péril. Il y a d'abord les heureux. Telle est leur condition. Jésus ici ne donne pas sa bénédiction pour les rendre tels. Ils le sont déjà. Pourtant, il nous est bien difficile d'associer le bonheur aux pauvres, aux affamés, aux affligés, aux rejetés. Si l'on disait aujourd'hui à ceux qui se sentent les parias de la société qu'ils sont heureux, gare au lynchage physique ou tout au moins médiatique. Contrairement à Matthieu, qui spiritualise quelque peu les béatitudes, Luc parle pourtant bien là des hommes et des femmes dans la misère. Certains se trouvent face à Jésus dans un dénuement très concret. Ils sont bien les mêmes que ceux dont parle la Bible à longueur de pages et auxquels le livre d'Isaïe fait référence quand il définit les destinataires prioritaires de la bonne nouvelle, les Anaouim. C'est sans doute pour cette priorité dans l'évangélisation que les humiliés de toutes sortes sont proclamés heureux par Jésus. Heureux, oui, vous, parce que Dieu se fait proche de vous en premier. En effet, pour combler leur manque d'argent, de nourriture, de consolation et de considération, ils n'ont pas à attendre de compensation proportionnée. Jésus ne promet pas l'augmentation illimitée du pouvoir d'achat, ni le référendum permanent. Il n'invite pas non plus ses interlocuteurs à la résignation d'un grand soir pour demain, après le 24 avril 2022. Il déclare audacieusement que la parole promettant la venue du royaume s'est accomplie déjà, puisqu'il apporte la bonne nouvelle aux pauvres, puisqu'il est en quelque sorte le royaume qui s'approche des hommes. Les affamés et les affligés seront rassasiés et consolés. Par qui? Par Dieu. Alors, Jésus les encourage à nourrir maintenant l'espérance que leurs combats ne seront pas vains. Quant à ceux qui souffrent en son nom, qu'ils sachent que leur bonheur au ciel est déjà assuré. Ce n'est donc pas pour leur bonté particulière que les pauvres sont les hommes et les femmes des béatitudes. Jésus est lucide. Il n'enjolive pas la précarité en l'apparant de toutes les perfections morales. Comme le chantait Daniel Balavoine, oui c'est vrai, ce n'est pas un évangéliste. Il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête. Nous pourrions dire qu'il ne suffit pas d'appartenir aux minorités précaires et marginalisées pour devenir un parangon de vertu, un héros de la vérité et de la justice. Seulement, Jésus trouve dans les pauvres des hommes et des femmes comme ceux qui sont devant lui, qui sont prêts à se mettre à l'écoute de la parole de Dieu quand d'autres seraient tentés de s'auto-suffire. Et voilà le danger qui guette ceux que Jésus interpelle vivement en déclinant quatre contre-béatitudes, puisqu'il ne s'agit pas de malédiction comme on l'entend trop souvent. La traduction, la nouvelle traduction liturgique, est à cet égard des plus justes. Quel malheur ! Quel malheur ! Jésus ne s'en prend pas à ceux qui auraient le mauvais goût d'être heureux maintenant. Ses propos n'ont rien de vindicatif et n'exaltent en rien la souffrance comme si elle était en elle-même une béatitude. Simplement, comme un écho au livre de Jérémie, « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel », c'est-à-dire qui compte sur ses seules forces ou sur celles d'un improbable sauveur humain. Malheureux celui que le bonheur rend aveugle. De plus, alors que Jésus nous invite, si nous voulons être ses disciples, à renoncer à nous-mêmes, à prendre notre croix chaque jour, maintenant, et à le suivre, nous pouvons être tentés de nous accrocher à nos multiples sécurités, sécurité matérielle, intellectuelle, affective, morale, spirituelle. Les pauvres, eux, n'en ont pas de ces sécurités, du moins pas si abondantes. Finalement, nous pouvons dire, aux yeux de Jésus, tous gilets jaunes, car tous à sauver. Au large, sur un terrain plat, ou sur les bandes d'arrêt d'urgence de nos vies, il vient à nous pour nous appeler à le suivre sur le chemin du vrai bonheur, chemin certes exigeant, car Jésus n'est pas un démagogue, mais chemin sur lequel nous est garantie la béatitude qui ne déçoit jamais.